Matière à penser, Dominique Rousset.
Et notre série cette semaine, le capitalisme est-il soluble dans le 21e siècle? Observons bien les débats actuels et pas seulement chez les économistes, même si nous en recevons un ce soir. Il semble que la question, encore inimaginable il y a quelques années, ne cesse à présent d'être posée, sous diverses formes et dans de nombreuses enceintes, avec plus ou moins de discrétion ou de virulence, mais les sciences sociales s'en emparent aussi, comme la société civile décidée à interpeller les États sur les grands enjeux contemporains auxquels le modèle dominant ne trouve pas à leur yeux les réponses appropriées. Y parviendra-t-il ce capitalisme? Peut-on le réformer ou faut-il le détruire et par quoi le remplacer? Certes, depuis sa naissance il y a 2 siècles, le capitalisme n'en est pas à ses premiers bouleversements. Mais pour notre invité ce soir, tout est à refaire. Finances emballées, injustice sociale, objectifs contrariés de croissance, changement climatique, sans parler évidemment des contextes politiques. C'est bien une ère nouvelle qui s'est ouverte. Bonsoir Jacques Mistral.
Bonsoir.
Jacques Mistral, polytechnicien, professeur des universités, économiste et juriste, et ce qui fait tout l'intérêt de cet entretien que nous allons avoir avec lui, une triple carrière dans l'université donc, mais aussi dans l'entreprise et dans la haute fonction publique, à tous ses titres, donc observateur de ce qu'il appelle la grande transformation qui s'est opérée au XXe siècle par le capitalisme. Conseiller économique également, Jacques Mistral, du Premier ministre Michel Rocard, c'était entre 88 et 91, puis conseiller spécial. Vous êtes occupé notamment de politique économique, vous avez séjourné à Washington, à l'ambassade de France, vous avez aussi conseillé Laurent Fabius. Je dis tout cela pour éclairer notre débat et de très nombreux ouvrages, les plus récents sur les États-Unis justement, sur la guerre des monnaies et sur la science de la richesse, c'est le dernier paru cette année, un parcours de la pensée économique est associé à la sphère politique, appuyé aussi sur de grands auteurs, souvent des philosophes, jusqu'à ce que vous appelez le délitement de l'ère néolibérale. C'est donc que nous y sommes ?
Ah oui, c'est une façon de résumer ce livre qui fait 600 pages et qui n'arrive à cette conclusion qu'après de longs
détours.
Bien
des développements.
Voilà. Ces longs détours peuvent se résumer, je crois, assez simplement en disant que par rapport à la littérature économique traditionnelle, ce que j'ai voulu faire, c'était de montrer que la pensée économique, qui a nécessairement un lien avec l'ensemble des autres sciences sociales, avec l'histoire en particulier, mais qu'elle avait un lien plus précis, plus particulier, depuis 4 siècles, avec la philosophie politique. Et pour illustrer cela, je prends l'image d'une spirale comme le DNA, dans laquelle l'économie et...
On va dire la DNA en français, excusez-moi.
L'ADN, l'économie et la politique progressent, cheminent, se transforment, s'adaptent dans leurs outils, répondent à des nouvelles questions, modifient leurs perspectives, mais cela d'une manière qui est étonnamment liée sans être intimement confondu. Pour ne prendre qu'un exemple, au XVIIIe siècle, à l'époque où naissent véritablement, où s'affirment véritablement la pensée économique avec Turgot ou Smith et la pensée politique avec John Locke ou Montesquieu, eh bien les deux abordent la question dans leur propre sphère, dans des termes qui sont assez proches et en tout cas qui méritent d'être discutés ensemble. Il y a donc une espèce de concordance dans une époque comme celle-ci, entre ce que réfléchit, ce que proposent les économistes d'un côté, les philosophes de l'autre. Et c'est comme cela que j'aboutis au diagnostic que vous évoquiez, c'est-à-dire que nous avons vécu, après la Seconde Guerre mondiale, après la Grande Dépression, dans un régime qui, de nouveau, obéissait à une certaine concordance entre ce qui se passait dans le domaine économique et les transformations démocratiques dans l'ordre politique. C'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Enfin, on trouve, chacun baptise un peu cette période comme il l'entend. Et puis, il y a eu ensuite une espèce de séparation, de retour en arrière, dans cette période qu'on qualifie souvent de néolibérale même. Et mon analyse, c'est donc que les difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui la quasi-totalité des grands pays avancés, c'est un divorce entre les sphères économiques et politiques.
Alors, ce qu'on appelle la grande transformation, d'ailleurs le terme n'est pas que de vous, hein. Enfin,
il
a été largement étudié.
C'est celui de Polanyi. Oui,
voilà,
oui.
Au XXe siècle, par Polanyi, vous dites en fait le capitalisme sauvage, le prolétariat, qui était très caractéristique du capitalisme du XIXe, ont laissé la place à un autre capitalisme que vous appelez mixte, que vous appelez celui des classes moyennes, c'est cela ? Voilà, si on remonte un peu historiquement.
Oui, oui, c'est très intéressant.
Ça, il faut c'est ce qui s'est passé au XXe,
pour bien
donc,
comprendre ce qui nous sépare justement de cette période. Donc, vous avez tout à fait raison de partir de là. Souvenons-nous à propos du capitalisme, et justement, peut-être en passant, pour nous protéger d'erreurs que l'on pourrait commettre aujourd'hui dans l'analyse et dans la prospective, souvenons-nous que pendant longtemps, à gauche, on a considéré que le capitalisme était irréformable, que son ressort étant, comme Marx l'avait si bien dit, d'exploiter le salariat, eh bien le capitalisme n'avait pas d'autre avenir que d'exploiter le salariat et de l'exploiter de plus en plus, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen pour les capitalistes de s'enrichir et de faire progresser l'accumulation du capital. Et ça, c'est une idée qui a subsisté pendant une grande partie du début du XXe siècle, et même dans les rangs communistes, jusqu'à après la guerre, pendant les années 50, et même un peu plus. Il a fallu beaucoup d'audace, par exemple, à Michel Aglietta, pour prendre, à la fin des années 60 et au début des années 70, une position tout à fait contraire, et reconnaître que le Fordisme était une évolution, une transformation, cette grande transformation que vous évoquez, une grande transformation du capitalisme qui avait produit l'élévation du niveau de vie de la classe ouvrière. Donc vous avez raison
oui,
de dire...
Oui, l'accès à davantage de, quand même, de moyens, à un salariat plus raisonnable.
Alors, il y a tout. Il y a la transformation des conditions de travail, d'abord. Et par exemple, il faut toujours partir de là, comme avec Marx. Hein, le capitalisme commence dans les conditions de travail. Donc, il faut se souvenir de ce qu'étaient les catastrophes industrielles, les accidents du travail au XIXe siècle. Et ça a été une des premières luttes ouvrières que d'arriver à lutter contre ces accidents et ces catastrophes. Je parle des catastrophes parce que on vient d'avoir l'usine Lubrizol, mais il faut se souvenir de ce qu'étaient les catastrophes industrielles au XIXe siècle. La Courrière, la plus grande explosion, la plus grande catastrophe minière qui a eu lieu en France. Il y a eu 1400 morts, je crois. Et imaginez donc le malheur des familles du prolétariat que vous mentionniez tout à l'heure. Donc, transformation des conditions de travail, transformation des conditions de vie, transformation aussi de la sécurité. Et c'est, je crois, ce qui est essentiel, puisque ce qui a été mis en place, ce sont des mécanismes qui assuraient au prolétariat, au-delà de l'action salariale traditionnelle, des conditions garantissant une certaine visibilité de l'avenir. Pas parfaite, mais une certaine sécurité.
Voilà.
Et la protection sociale en est évidemment le garant.
Et alors, nous arrivons donc à la fin du XXe siècle. Évidemment, on saute les étapes à toute allure. Vous avez bien mentionné 600 pages dans votre ouvrage. Et elles sont beaucoup plus explicatives, bien sûr. Mais disons, après la crise financière que nous avons connue, c'est à partir de là que vous dites au fond que tout est à refaire ou tout est à reprendre. Et là, arrivent beaucoup d'autres paramètres. La lutte contre le réchauffement climatique, on va peut-être en dire un mot. Mais également, toute une série d'événements qui entraîne un rejet, une sorte de désarroi et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui la montée des populismes pour parler d'un aspect politique. Si vous le voulez bien, partons de cette actualité, rentrons en France. 2019, donc cette année, mais dès les mois précédents, le mouvement des Gilets jaunes que vous avez observé avec beaucoup d'attention parce que pour vous, il nous force vraiment à repenser une articulation de la richesse et de la justice sociale. Et c'est très intéressant la manière dont vous explorez ce mouvement.
Oui, ce qui me frappe beaucoup par rapport à la littérature qui a spontanément fleuri au printemps pour analyser ce mouvement social, beaucoup d'analyses étaient tentées de le rattacher à ce que l'on connaît déjà, ce qui effectivement est une tentation naturelle pour un observateur qui a besoin d'écrire ou un commentateur qui a besoin d'écrire quelque chose sur un événement nouveau, c'est de se dire bon bah ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà, il y a des gens qui sont mécontents, c'est normal,
ils manifestent,
c'est normal, ils
manifestent,
ils ont des revendications, ils veulent parler aux responsables, etc. Or tout ce qui a été écrit pour expliquer que c'était une nouvelle étape des mouvements traditionnels, à mon avis, est hors sujet complètement. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont été mobilisés dans ce mouvement des Gilets jaunes n'ont rien à voir avec aucune des formes que nous avons connues dans un passé ancien ou récent en matière de protestation sociale. D'abord, ce qui était très frappant, c'est que les syndicats, les grandes centrales syndicales, n'y étaient pas. Par conséquent, il n'y a aucun lien avec, disons, les problèmes connus par ailleurs du salariat, c'est-à-dire les restructurations, les qualifications, le chômage longue durée, tout un tas de choses. Non, ça, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Mais c'était pas non plus les mouvements un peu plus spontanéistes, si je puis dire, qui se développent depuis déjà des années, qu'il s'agisse des agriculteurs qui vivent dans des conditions très difficiles, des jeunes des banlieues qui sont confrontés à des difficultés sans nom, des infirmières qu'on voit régulièrement, etc. Non, c'était un regroupement de personnes qui n'avaient aucun lien, disons, lié à la production, aucun lien qui explique leur regroupement. Par conséquent, il faut prendre une analyse totalement différente.
Mais un point commun, pardon Jacques Mistral, un point commun, c'est que tous étaient malheureux, on va le dire un peu rapidement,
se
considéraient comme pas reconnus, peu valorisés, ouais, pas reconnus, voilà, déclassés, voilà. Déclassés même peut-être
par rapport à leurs espoirs. À leurs attentes. Donc c'est un mouvement, vous avez tout à fait raison d'introduire ces éléments. Donc il faut bien partir de ce que c'est un mouvement d'individus, de protestation d'individus isolés. Hein, c'est ça qui était très frappant, c'est que c'était des personnes qui souffraient de vivre dans des conditions dans lesquelles ils n'avaient plus de lien avec le reste de la population, de la communauté nationale. Moi je crois que c'est très important de partir de là, de constater qu'effectivement, comme les églises, les partis, les syndicats et même les associations ont perdu de leur vitalité, une partie de la population dans ce pays, dans les territoires un peu où ils se considèrent comme abandonnés, ont perdu tout lien social. Par conséquent, ce mouvement illustre ce que d'autres ont également bien analysé, c'est-à-dire l'évolution vers une société d'individus atomisés. Hein, on n'est plus à une époque où on peut facilement se représenter la totalité des problèmes sociaux comme des problèmes entre les classes sociales, entre des grandes classes sociales qui regroupaient de vastes populations, ou bien entre les dominants et les dominés, comme la sociologie de Bourdieu nous avait habitués à le faire. Nous sommes dans une situation dans laquelle il faut partir des individus, et c'est ce point que j'ai cherché à expliquer sur la façon de concevoir la justice.
En fait, vous définissez très clairement un mode de vie qui est suburbain, et avec deux éléments très importants. Le pavillon et la voiture.
Voilà.
Et les deux sont sans doute constitutifs de cet isolement dont vous parlez. Voilà. On se retrouve dans un pavillon qui est souvent un piège, puisque, on le sait, cela coûte assez cher. Souvent, il faut même, non pas une, mais deux voitures pour des familles moyens relativement modestes. Et surtout, un grand isolement, et vous le faites même remonter, on vous reconnaît un peu politiquement, à la politique de Nicolas Sarkozy, qui avait rêvé après les États-Unis, ou sur le modèle des États-Unis.
C'est ça l'origine, l'expérience américaine. Oui.
Qui avait rêvé d'une démocratie de propriétaires, donc fondée, évidemment, sur l'habitat pavillonnaire et sur la voiture.
Voilà, mais vous résumez très bien, effectivement,
ce que j'ai
écrit il y a quelques mois dans l'esprit. Oui, j'ai été sans doute préparé à cette réflexion par une assez longue expérience américaine que vous évoquiez tout à l'heure, et où, d'une part, j'ai vu ce qu'était une société capitaliste très individualiste, beaucoup plus que la nôtre, mais une société aussi dans laquelle le lien social était maintenu par d'autres canaux. Les communautés sont partout vivantes aux États-Unis.
Les églises.
Et les églises, bien sûr. Donc, il n'y a pas de syndicats qui fassent comme en France, il n'y a pas de partis qui établissent des relations entre les citoyens comme chez nous. Ils existent, mais ils ont un rôle différent. En revanche, l'individualisme extrême de la population, de la société américaine, qu'avait bien commenté Tocqueville, est un peu encadré par ces facteurs qui créent du lien social. En France, l'évolution vers des conditions matérielles d'existence, que vous avez rappelé, le pavillon et la voiture, détruisent, je crois, les liens sociaux traditionnels. Les personnes qui sont engagées dans ce mode de vie ne trouvent pas l'occasion ou le ressort ou la volonté de s'engager dans la vie politique pour la gestion de leur village ou de leur canton. Mais il y a cette réaction.
Cette réaction qui, notamment, il n'y avait qu'une image très symbolique, c'est le rond-point.
Oui, le rond-point, bien sûr, parce que c'est là que se nouent les deux éléments. Et à un niveau un peu plus abstrait, on peut être frappé aussi de ce que, dans les revendications de ces gilets jaunes, il y avait beaucoup d'éléments qui consistaient à revenir en arrière. Rétablir l'ISF était le premier. Il y en avait beaucoup qui étaient une espèce d'appel à un retour en arrière parce que, comme on le dit souvent, c'était mieux avant. Surtout, on avait l'espoir que les choses iraient mieux dans l'avenir. Bon, ça a été ruiné. Et donc, il fallait ce retour en arrière. Il n'y a pas de meilleur exemple que de bloquer la circulation. C'est un blocage matériel qui reflète une espèce de tentation de blocage de l'évolution sociale.
On peut aussi voir, Jacques Mistral, pour quitter le territoire français, un point commun avec un autre électorat populaire qui a le même type de revendication, l'électorat, bien sûr, de Donald Trump, si l'on parle des États-Unis, et plus près de nous, celui qui a décidé en faveur du Brexit. Vous les associez à cela ou pas?
Bien sûr,
oui. Par rapport à cette critique du capitalisme,
qui
est notre,
bien sûr, bien sûr.
Notre thème.
Oui. Enfin, vous savez, l'exprimer comme critique du capitalisme, c'est une façon très française, hein, parce que aux États-Unis, personne ne s'exprimerait dans ce vocabulaire. Et en Grande-Bretagne, les électeurs qui ont, au référendum, il y a 3 ans, voté pour le Brexit, se dressaient en réaction contre des aspects beaucoup plus pratiques et concrets, qui étaient la politique d'austérité du gouvernement conservateur. Et la libre circulation qu'il jugeait trop rapide des migrants, des travailleurs polonais. Donc, c'est pas le capitalisme toujours qui est en jeu. C'est la façon dont la société des individus, je préfère cette expression, s'est transformée dans tous ces pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi bien en Italie ou en Hongrie, et qui provoque dans des classes populaires et dans des classes moyennes très larges, la moitié de la population dans ces cas, des réactions de méfiance, de peur, de rejet, et qui aboutit au même type de choix politique. Et c'est la raison pour laquelle, revenant à ce que je disais au début, je crois que les considérations économiques sont loin d'être toujours déterminantes, et qu'elles sont toujours présentes, c'est évident, hein, on l'a évoqué avec les ronds-points, mais elles sont loin d'être exclusives, et c'est très souvent des réactions à l'égard du statut social, de la reconnaissance que l'on obtient ou pas des autres, de la façon dont on se voit dans le regard des autres, qui commandent ces réactions politiques. Et à ce titre, il y a bien des traits communs entre les campagnes françaises, les campagnes britanniques et les campagnes du Midwest.
On n'a pas encore parlé d'injustice, mais on est bien au cœur du sujet, l'injustice sociale. Alors on va revenir à certains des auteurs prestigieux que vous évoquez, des philosophes, ou par exemple John Rawls, auquel vous faites beaucoup de compliments, philosophe américain du milieu du XXe siècle, que vous jugez au moins aussi important que Keynes, l'économiste.
Oui, il faut bien distinguer ce qui relève de la justice, de sa recherche et des mécanismes qu'on met en œuvre pour l'atteindre, et la perception qu'ont les gens des inéquités qu'ils subissent. Je disais tout à l'heure que à propos des gilets jaunes, il y avait souvent une sensation d'injustice, mais qui était une sensation d'injustice perçue. Donc il faut analyser cela un peu plus avant, dans les deux directions. Et moi, je trouve qu'il y a là un énorme paradoxe qu'a fort bien et fort simplement documenté Hervé Lebras, qui est un commentateur démographe et plus largement commentateur du changement social très fin, très subtil. Il met sur la table, dans un petit ouvrage, tous les éléments de ce paradoxe, en constatant que la France est un pays dans lequel on vit bien, en moyenne. Personne ne sous-estime les difficultés, les restos du cœur et tous les difficultés de vie des migrants ou des classes très populaires. Mais la France, si on regarde ce pays à l'échelle de la planète, est un pays qui va bien, dans lequel des indicateurs fondamentaux, par exemple, depuis que j'ai commencé à travailler, l'espérance de vie des hommes dans ce pays a gagné 10 ans. Donc, c'est un indicateur qui résume le mieux l'état de santé d'une population. C'est assez logique, d'ailleurs, parce qu'on y met beaucoup de ressources, comme dans l'éducation, comme dans le suivi des personnes âgées, des retraites, etc. Et donc, malgré l'insatisfaction de beaucoup de catégories sociales, sur différents points que j'ai évoqués, il faut bien reconnaître que il y a beaucoup de raisons de se réjouir de vivre dans un pays comme la France, ou comme l'Allemagne, ou comme les Pays-Bas. À côté de ça, il faut bien constater que les électeurs de Trump, comme les électeurs du Brexit et les nôtres, sont souvent extrêmement frustrés, insatisfaits et perçoivent un sentiment d'injustice dans la façon dont ils sont traités. Là, c'est François Dubé que je voudrais citer, parce que c'est lui qui a, je crois, le mieux expliqué cette transformation du sens des injustices entre un univers dans lequel les injustices étaient, par exemple, pour simplifier, celles entre ouvriers et patrons. Et là, c'est un sentiment d'injustice qui est à la fois extrêmement manifeste et contre lequel donc on peut s'organiser et lutter de manière assez claire et partagée. C'est aussi un sentiment d'injustice qui n'a rien de personnel, c'est-à-dire que l'ouvrier des mines que j'évoquais tout à l'heure à propos des accidents, il participait aussi à une société ouvrière, à une société prolétaire dans laquelle se développait une culture où il existait en tant qu'individu beaucoup plus que dans les sociétés précédentes. Un mineur du 19e siècle avait une personnalité comme partie de la classe ouvrière beaucoup plus affirmée qu'un paysan ou un serf des siècles précédents.
Et souvent alors, une fierté.
Et la fierté, mais on peut après, il y a des travaux de sociologues pour être historien pour expliquer tout cela. Et c'est cela qui a disparu avec le tournant néolibéral que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, cette politique a donné un grand coup de pied dans toutes les institutions qui organisaient cette société dans lesquelles les classes moyennes, les ouvriers, mais également les employés, les cadres moyens, toutes ces personnes se constituaient un univers d'individus dans lequel ils étaient reconnus et membres d'une collectivité. C'est cela qui a disparu et qui fait percevoir des injustices très particulières comme devenant quelque chose d'insupportable. C'est pour ça que je citais Dubé, qui analyse les injustices en tant que. Donc désormais, il y a bien des injustices sur le plan salarial, ou sur... mais on est injustement traité en tant que femme, en tant qu'habitant de banlieue, en tant qu'utilisateur du RERB, en tant que brun de peau. Donc il y a mille sortes d'injustices, d'inéquités que l'on peut ressentir douloureusement et face auxquelles les politiques publiques sont extrêmement désarmées.
Mais l'injustice, le sentiment d'injustice, il est aussi lorsque l'on se compare aux autres, tout de même.
C'est cela.
La richesse des autres et la richesse très ostentatoire, comme ce néolibéralisme nous l'a montré largement, fait partie aussi de cette frustration.
Évidemment. Mais c'est la plus traditionnelle, c'est la plus ancienne, mais il est très frappant quand même de constater, malgré le succès des travaux de mes excellents collègues qui sont spécialisés dans ce domaine, il est très frappant de constater que les inégalités en France sont faibles par rapport à tous nos voisins en Europe et qu'elles sont pratiquement au niveau où elles étaient il y a 15 ou 25 ans. C'est très difficile d'expliquer le malaise actuel comme étant directement lié au fait que ce soit les inégalités de revenus. Elles forment une toile de fond, mais il faut, si on veut comprendre les particularités du monde contemporain, eh bien il faut aller beaucoup plus loin et peut-être chercher des pistes différentes.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco, à moi les alizés, les vents. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller, mes pouces, on va se la
Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et notre série « Le capitalisme est-il soluble ?» Dans le 21e siècle, nous sommes en compagnie de Jacques Mistral, dont on entend l'expérience, économiste, mais dont on entend l'expérience comme professeur des universités, mais également participant aux politiques publiques et à l'entreprise aussi. Parachute doré s'appelle cette chanson d'Alain Souchon que nous venons d'entendre. C'est évidemment une allusion à la perception qu'ont toutes les populations qui ressentent de la frustration, aussi par rapport à l'ostentation d'un capitalisme devenu un peu fou et qui est, d'après vous, en train de commencer son délitement. La théorie du ruissellement, tenez, on va reprendre celle-ci. Je parlais de John Rawls, vous êtes passé assez vite d'ailleurs sur John Rawls, qui avait rompu avec cette idéologie d'un capitalisme comme ça, très très puissant, pour y intégrer quand même davantage de,
ah bah parlons
de social, on peut en dire un
John
mot
Rawls,
quand même.
Oui,
voilà.
Oui, avec,
et puis de la théorie du ruissellement,
après,
mais on va y arriver
alors,
avec lui.
John Rawls, j'en fais rarement un produit d'émission radio, parce que c'est un auteur dont la pensée atteint un degré de complexité qui est sensiblement supérieur à ce qui est communément
allez, on compte sur vous pour nous le simplifier.
En matière économique. Donc je vais vous dire simplement ce qu'a fait John Rawls, c'est que, à mon avis, il a tenté de formuler une théorie de la justice qui se distingue des philosophies politiques traditionnelles en étant capable de se trouver face à face avec les théories économiques modernes. Donc la théorie de Walras, dite de l'équilibre général, de la microéconomie, avec la théorie keynésienne. Et assez souvent, on soutient que John Rawls est un peu le philosophe politique qui a expliqué sur le plan philosophique et politique l'impact de la théorie keynésienne quant à la transformation du rôle de l'État et à la poursuite d'objectifs d'encastrement de l'économie, d'amélioration des conditions de vie et de développement de mécanismes de protection sociale. Et ce n'est pas faux. Mais pour acquérir cette réputation, disons, il a mis en œuvre un schéma théorique qui est extrêmement subtil et qui a beaucoup attiré l'attention de tous ceux qui intéressent ces questions, mais qui laisse également beaucoup de questions ouvertes. Le schéma, en deux mots, est le suivant. Il invite chacun à se placer dans une situation hypothétique, à se placer derrière un voile d'ignorance à propos de ce que sera ou serait sa propre situation dans le monde réel, polytechnicien ou pas, etc. On se met derrière un voile d'ignorance et on délibère pour savoir quels sont les principes de justice que l'on souhaiterait voir appliquer une fois que le voile d'ignorance serait levé. Et sur cette base méthodologique qui fait référence à une tradition dans le domaine philosophique, Smith avait déjà un mécanisme similaire avec ce qu'il appelle le spectateur impartial, mais Rawls va beaucoup plus loin et élabore des principes de justice dans lesquels il rappelle que tout doit être mis au service d'un objectif d'égalité dans l'accès aux positions et dans les rémunérations.
C'est-à-dire à la fois dans le travail...
Dans le travail, dans les positions sociales, dans les responsabilités et dans la reconnaissance que les autres vous accordent. Donc, il a un champ extrêmement large à partir duquel on peut développer beaucoup d'idées et qui peuvent atteindre un degré de radicalisme très poussé, puisque par exemple, il considère que le talent n'a pas à être rémunéré, contrairement à ce que diraient en général les économistes, et beaucoup de gens d'ailleurs dans l'opinion publique. Le talent est un don du ciel. On n'a aucun droit au fruit d'un talent qui vous est donné sans qu'on sache pourquoi. Donc ça va très très loin.
Il souhaite de la justice dans une société d'individus qui
rappelle l'objectif central d'égalité et pas simplement d'égalité des chances comme on le dit parfois. Vous savez, à l'époque de ce qu'on a appelé à gauche la troisième voie avec Tony Blair, les travailleurs britanniques avaient mis en avant l'idée que au point où l'on en était, la méritocratie était suffisante pour aider chacun à trouver sa place dans la société. Il va à l'encontre de ce principe. Ce n'est pas l'égalité des chances qu'il faut poursuivre, ce n'est pas suffisant, parce que sinon on perd beaucoup de monde en cours de route. Il faut conserver le principe d'égalité comme principe directeur. Et les économistes, d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, pas tous, mais pour une bonne partie, n'objectent pas à cela. Il n'y a aucune démonstration convaincante de ce que les inégalités sont un facteur décisif du succès économique. Donc les économistes, en tout cas pour ce qui me concerne, n'ont pas d'objection à intégrer un principe comme John Rawls. Après, il faut savoir comment on fait pour le mettre en œuvre, ça devient une affaire plus compliquée.
Alors revenons à la politique justement, en tout cas aux théories qui peuvent conduire des politiques publiques, la fameuse théorie du ruissellement. Je voulais qu'on ait le temps d'en dire un mot, puisqu'on en réentend encore beaucoup dans le discours, y compris avec notre président actuel. On a d'abord, dites-vous, toutes les raisons de le rejeter au bon sens populaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous voyez deux formes de ruissellement, hein, celle qui vient du privé et celle qui vient du public. Et cet adage que vous prenez, qui est, dites-vous, couramment utilisé par le Wall Street Journal, qui est assez poétique d'ailleurs, la marée remet à flot tous les bateaux.
Voilà.
Mais on n'y croit pas.
Tous les Américains n'y croient pas non plus. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu cette révolte contre l'accroissement des inégalités. Mais enfin, ça, c'est la meilleure expression qu'on puisse trouver de cette idée que les gros bateaux sont remontés par la marée, mais également tous les petits. Et par conséquent, eh bien, faisons remonter la marée et tout le monde s'en trouvera mieux. Ça, c'est cette théorie, effectivement, du ruissellement. Je vous rassure, c'est une formulation politique et journalistique. C'est quelque chose qui ne sera, à mon avis, que très très rarement défendu par un économiste que vous pourriez inviter ici.
Mais il y a un autre ruissellement, c'est celui de l'argent public.
Alors,
celui-là,
ça,
qu'est-ce qu'on en fait?
Alors là, c'est une façon un peu rhétorique que j'ai eue, puisque vous avez lu cet article avec beaucoup d'attention.
Oui, c'était l'article d'un Revue Esprit que vous avez mentionné. Oui.
Voilà, c'est une façon un peu rhétorique de dire, bon, on est bien prévenu, je crois, en France, contre l'idée que la théorie du ruissellement pourrait marcher bien, et donc Donc, faisons attention. Mais faisons attention à quoi? Si on rejette toute idée que l'économie puisse faire monter les bateaux, j'ai peur qu'on reste tous à sec, comme dans les ports bretons où la marée est importante. Donc, il faut bien quand même intégrer quelque chose de l'économie. Et je rappellerai, si vous le souhaitez, comment on peut se passer du ruissellement et en même temps plaider pour des mesures dans lesquelles on cherche à faire que l'économie marche mieux. Ça, c'est la situation française. Je pense qu'il y a en France, en contrepartie, symétriquement, une tentation en permanence de croire que, à la place du ruissellement que je viens d'évoquer, il est possible de faire appel à des solutions qui permettraient à l'argent également de ruisseler vers les couches les moins favorisées. J'ai appelé ça le ruissellement budgétaire, c'est-à-dire que renforcer le rôle de l'État tous azimuts, multiplier les réglementations pour réduire les disparités, les inégalités, les injustices, accroître les subventions, multiplier les dépenses publiques seraient un moyen de faire l'argent public ruisseler. Je dis, cette attitude d'esprit mérite d'être traitée avec autant de prudence que la précédente, parce que, de manière sûre, on sait que l'alternative à une économie de marché, ce n'est pas une économie généreuse qui délivrerait à tout le monde des services publics de la plus grande qualité. On sait, et l'expérience du XXe siècle et même de la décennie récente le prouve tristement, on sait que l'alternative à l'économie de marché, c'est une économie administrée dans laquelle le sort des populations défavorisées ne peut que se détériorer.
Jacques Mistral, donc, nous avons évoqué le soulèvement un peu citoyen avec ce mouvement des Gilets jaunes que vous avez analysé. On vient de parler à l'instant d'autres formes d'expression du capitalisme. Et le 21e siècle est aussi en train de bousculer des visions plus classiques avec la question du réchauffement climatique que vous abordez également. C'est dans un autre ouvrage que vous avez supervisé. Donc cet ouvrage, vous avez fait collaborer à ce livre un grand nombre d'auteurs économistes. Il y a Jean Tirole, notamment le prix Nobel, et d'autres. Ce que les économistes proposent pour lutter contre le réchauffement climatique. Là, il n'y a pas 36 solutions, et nous l'entendons d'ailleurs de leur part depuis dès le début de cette problématique si importante dans notre siècle. La réponse des économistes, elle s'articule autour du prix du carbone.
Oui.
Pas beaucoup d'autres issues. Mais là aussi, ça bouscule énormément le capitalisme traditionnel tel que nous l'avons connu au XXe.
Oui et non. Oui, bien sûr, parce que une économie organisée autour d'un objectif de réduction drastique des émissions de carbone que permettrait d'atteindre l'introduction d'un prix élevé du carbone, ça bouscule tout. Ça bouscule le capitalisme, mais ça bouscule la société des individus. C'est-à-dire
c'est
que
une révolution,
ça ne bouleversera pas simplement le CAC 40, ça bouleversera la vie de chacun d'entre nous, la façon dont nous vivons, dont nous alimentons, dont nous circulons, dont nous nous éclairons, dont nous chauffons, etc. Donc c'est effectivement une transformation tout à fait profonde. Est-ce que le capitalisme, puisqu'on utilise ce terme, peut s'engager dans une direction de ce genre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est trompé une première fois il y a un siècle ou 75 ans en imaginant que le capitalisme serait incapable de transformer la condition de vie des salariés et d'obtenir l'augmentation du niveau de vie et la protection sociale que l'on a créé. C'est pas lui qui l'a créé, c'est évidemment la pression, c'est évidemment aussi bénéfice de la technologie qui a permis des gains de productivité.
Mais il l'a absorbé alors en quelque sorte.
Il est parfaitement confortable, si je puis dire, le capitalisme est parfaitement confortable avec l'idée du fordisme. Ne pas commettre la même erreur me paraît absolument central. Et par conséquent, franchement, j'invite tous ceux qui pensent que c'est impossible à réfléchir une seconde fois et à tirer les leçons de l'expérience. Moi, je pense clairement que le capitalisme est parfaitement capable de vivre avec un prix du carbone, non pas qu'il serait multiplié par 4 ou fixé à un niveau trop élevé du jour au lendemain, mais avec une évolution prévisible. Et non seulement je pense qu'il est capable de vivre avec cela, mais que c'est souhaitable pour toute la société. Pourquoi ? Parce que c'est le mécanisme, et c'est le seul que je connaisse, dans lequel les capitaux qui seront engagés, les richesses, donc si on ne veut pas employer le mot capitaux, enfin c'est bien les capitaux qu'on met dans les éoliennes et dans les choses comme ça. Donc les ressources que l'on met dans la lutte contre le réchauffement climatique seront des ressources qui seront bien employées en permettant effectivement d'atteindre des objectifs dans lesquels, à la fin du cycle, on retrouvera de moins émissions de carbone et la reconstitution de la richesse qu'on y a mise. Car c'est ça le secret de la croissance et du développement et de la richesse depuis 4 siècles. C'est ce que Marx a résumé à travers la formule célèbre AMA'. C'est une formule qui résume le cycle économique dans lequel l'argent qu'on met dans le processus processus économique à chaque étape, sert à produire la richesse et le mode de vie M d'une époque, et à la sortie, on retrouve cet argent qu'on peut, même avec un surplus, réinvestir dans des objectifs productifs ou sociaux. Donc il faut toujours avoir ça en tête, que ce qui assure la richesse future, c'est la capacité de retrouver l'argent qu'on a mis au départ. Et les éoliennes, qui apportent une solution visible et gratifiante à ceux qui souhaitent trouver un mode de croissance plus économe, c'est, à mon avis, une solution qui, évidemment, a le mérite d'apporter une énergie alternative à relativement bon marché. Elle a beaucoup d'inconvénients et elle n'assure pas cette reproduction du cycle économique. Donc, les économistes proposent cette évolution vers une tarification du carbone. L'article de Tirole dans le livre que vous citiez est extrêmement prudent. Nous sommes parfaitement conscients, tous ceux qui avancent cette idée, parfaitement conscients des difficultés en matière de redistribution du revenu. Si par malheur on l'avait oublié, les Gilets jaunes nous le rappellent. Donc, c'est pas les économistes qui ont oublié ça, c'est les politiques qui a oublié que dans la France d'aujourd'hui, beaucoup de gens dans les territoires avaient besoin de se chauffer individuellement et d'utiliser deux voitures, comme vous le disiez, pour vaquer à leur vie quotidienne.
Nous l'avons évoqué au début, nous retrouvons devant des politiques qui sont souvent des populistes. On reste encore sur les pays avancés. Nous avons très peu parlé du monde en développement jusqu'à présent. Donc ça devient très difficile de faire admettre. On le sait qu'il y a beaucoup de réticences sur cette idée qui est pourtant du bon sens de faire payer à ceux qui utilisent le plus de carbone les conséquences de leur choix. En l'occurrence parce qu'ils émettent beaucoup plus de carbone que tous les autres.
Oui,
difficile de le conjuguer avec de la politique.
On peut prendre votre observation, soit en faisant quelques commentaires sur la réalité que vous pointez du doigt. Par exemple, à propos des avions, il y a une espèce de révolte contre...
Le transport aérien.
Alors, attention, la révolte, elle n'est pas contre le transport aérien, elle est contre les classes aisées qui abusent du transport aérien. La réalité, c'est que le transport aérien se développe parce que il répond à une demande, à des consommations populaires et à des comportements des classes moyennes. Si on fait référence à la chanson de Souchon, la plus grande quantité de CO2 qui est émise pour profiter des paradis qu'il décrit, c'est pas les quelques capitalistes qui, comme feu Madame Bettencourt, allaient une fois par an dans une île perdue. C'est les centaines de milliers, les millions, les dizaines de millions de membres des classes moyennes occidentaux et chinoises maintenant qui parcourent le monde pour aller au soleil des tropiques. Il ne faut pas se tromper d'ordre de grandeur. Et le fait d'empêcher les cadres des grandes entreprises de décourager les cadres, bien c'est en train de se faire parce que les entreprises sont très heureuses de décourager le déplacement de leurs cadres et remplacent ces déplacements par des téléconférences et autres. Donc ça va se faire sans problème. La difficulté, ça sera le jour où, comme pour les Gilets jaunes, on dira, ah ben non, mais c'est le déplacement de vos vacances que vous aviez prévu d'aller passer en Tunisie ou en Guadeloupe qui va être mis en cause parce qu'on fera payer. Ça sera un problème politique plus grave parce que ça touchera des électeurs et de grandes parties de la population.
Les pays, effectivement, nous avons beaucoup parlé des pays avancés ici, dans ce débat sur le capitalisme. Du côté des pays en développement, et pour rester peut-être dans l'orbite de la question climatique, mais on peut parler évidemment d'injustice sociale, on peut parler évidemment de migration. Tout ceci interroge énormément le capitalisme en ce début de 21e.
Bien sûr, sous beaucoup d'aspects. Disons que c'est une thématique que j'ai surtout eu l'occasion d'étudier à propos de la Chine. La Chine, parce que c'est celui des pays aujourd'hui émergents qui était très très pauvre au moment où j'ai commencé à travailler comme économiste. Puis en plus, c'était une époque où il y avait beaucoup d'intérêt sur ce qu'était la Chine, sa réalité, son avenir. Moi, je suis très frappé à propos de la Chine, mais c'est une observation qui s'applique à beaucoup d'autres pays, de la transformation justement des classes moyennes. C'est-à-dire que s'il y a une justification à parler du capitalisme au singulier, c'est bien celle-là. C'est que, y compris dans les endroits où l'on pensait que les transformations économiques et sociales étaient repoussées à un avenir lointain, eh bien ces transformations ont été extrêmement rapides et elles ont produit ce que l'on avait observé ailleurs, c'est-à-dire une explosion de la richesse au sommet, les fortunes chinoises, le 1% le plus riche en Chine, immensément riche, mais la classe moyenne se compte en centaines de millions et il suffit de se promener au voisinage des Galeries Lafayette pour en voir l'effet. À la fin, au bas de l'échelle, eh bien on retrouve comme au 19e siècle également l'absence de loi sociale, des contraintes d'airain et un capitalisme de fer. Ces exemples sont utiles pour comprendre la diversité des capitalismes et le danger qu'il y a à utiliser un seul mot. La diversité, c'est que le capitalisme devient une espèce de mode de production universel dans lequel les spécificités nationales, les spécificités historiques pèsent encore énormément et dans lesquelles le succès justement que l'on pensait inimaginable il y a 25 ans des pays émergents place les pays riches et leur classe moyenne dans une situation extrêmement difficile. Et à tout ce que l'on a commenté depuis le début de l'émission sur le malaise des classes moyennes, il faut ajouter cet élément évidemment important, c'est que une partie du malaise, pas la totalité, on n'a pas eu besoin de l'introduire jusque-là, mais une partie du malaise provient de la pression qu'exercent les populations qui atteignent des niveaux de productivité occidentale, parfois les dépassent, à des niveaux de rémunération beaucoup plus faibles. Et par conséquent, il y a dans les pays avancés, dans la révolte, les révoltes qu'on a commentées, il y a bien un aspect conservateur, je disais tout à l'heure le retour en arrière, la tentation du retour en arrière, c'est malheureusement très fondé, puisque ces populations, souvent, vivaient sur une espèce de rente que le travailleur chinois vient remettre en cause.
C'est votre conclusion, Jacques Mistral. Soluble, donc, ce capitalisme dans le 21e ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu oui ou non ? Parce que c'est bien...
Ah ben, je réponds...
Bien complexe.
Oui, oui.
Oui, si l'on regarde le modèle de ce qui s'est déjà passé.
Si l'alliance, la conjonction entre les mécanismes économiques et politiques est rétablie sur un mode constructif, c'est-à-dire qu'actuellement, l'économie bloque la politique bloque l'économie, et donc on est un peu en train de tourner autour du rond-point. Donc il faudrait bien qu'à un moment, il y ait une initiative qui permette de donner à la société une perspective d'avenir, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, donc dans la vie démocratique et dans la vie comme agent économique, je ne la vois pas pointer à très brève échéance.
Est-ce que vous êtes inquiet de ce siècle à venir ?
Du siècle, non. De l'actualité, oui, beaucoup. Du siècle, non, pas du tout, parce que les jeunes générations sont en train de prendre en main leur avenir. Notre avenir, c'est eux. L'avenir de la planète, c'est eux. C'est pas les populistes qu'on a mentionnés, Trump et consorts. C'est pas les retraités qui vivent mal leur vieillesse. Ce sont les jeunes qui vont nous tirer vers un avenir différent. Mais il faut le temps.
Merci infiniment Jacques Mistral d'être venu nous trouver. Je cite juste un ouvrage, La science de la richesse. Vous allez me donner le sous-titre.
Et c'est sur la construction de la pensée économique.
Et bien voilà. Et c'est paru chez Gallimard et c'est tout à fait passionnant. Et puis d'autres ouvrages de vous que nous allons mettre en ligne. Merci encore.
Merci.
C'est donc Jacques Mistral que nous avons reçu pour notre série « Le capitalisme est-il soluble dans le 21e siècle ?» Un grand merci à notre petite équipe, Anne-Laure Chanel qui réalise l'émission avec Olivier Dupré ce soir, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et Justine Wild, notre stagiaire pour la préparation, pour la documentation et pour avoir collecté tous ces titres que nous vous recommandons. Très bonne soirée à tous.